Alors, nous continuons notre série sur les questions difficiles, questions récurrentes et essentielles. Et aujourd'hui, nous allons prendre quelques points bibliques qui font difficulté. Et avant de prendre ces quelques points bibliques, je souhaiterais dire que, en tant qu'Église ou en tant que chrétien, nous devons apprendre à répondre aux questions difficiles, aux questions compliquées, parce que nous devons premièrement maintenir notre foi au bon niveau et nous devons aussi aider les gens qui sont bloqués à se livrer pleinement au Seigneur. Nous ne devons pas avoir une attitude du genre « Moi, je crois, Dieu m'a éclairé, cela me suffit. » Non, Dieu t'a éclairé, c'est très bien, tu es sauvé, mais il y a encore des gens à sauver et il y a encore des luttes à mener sur terre. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que notre foi se maintienne toujours au bon niveau et cela n'est possible que en fonction de notre relation vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de la conception de Dieu. Et donc, nous serons amenés pour nous maintenir dans cette forme-là à répondre à des questions difficiles. Et sans cela, nous allons nous retrouver, nous-mêmes chrétiens, modérés. Et tout ce qui est modéré ne tient pas devant la tempête. Donc, il faut que nous soyons enracinés en tant que chrétiens. Et cela demande une totale confiance à la parole. Cela demande une totale confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu, nous la voyons aussi à travers des réponses qu'on peut donner concernant des problèmes difficiles, des questions difficiles et des questions bibliques, parfois complexes. Et nous basons, entre autres, sur le psaume 119, 130, qui nous dit que les révélations de ta parole éclairent et donnent l'intelligence au simple. Donc, nous croyons que toutes les réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Donc, quand nous lisons la parole, nous sommes éclairés. Et donc, en tant qu'homme simple, face à des problèmes difficiles, la parole nous donne l'éclairage sur ces problèmes difficiles. Donc, notre recours se trouvera toujours dans la parole. Toujours dans la parole. Cependant, Dieu peut nous aider en nous donnant quelques options dans la nature, dans la science, pour confirmer, mais notre recours se trouvera toujours dans la parole. Nous lisons aussi dans Tite 1:9, il est écrit que l'ancien doit être bien enseigné sur la saine doctrine, de sorte à être capable de réfuter les contradicteurs. Donc, une église ou un groupe de chrétiens doit avoir en son sein des gens qu'on peut appeler docteurs ou autrement, mais des gens capables d'affirmer c'est quoi la vraie doctrine et capables de réfuter ceux qui viennent contredire la vraie doctrine. Donc, toute église doit s'employer à cela. Tout groupe de chrétiens qui vit en tant que bataillon du Seigneur sur terre doit avoir en son sein des personnes capables de défendre la Bible, de défendre l'Évangile, de défendre la parole de Dieu, de défendre la foi. Et aussi, nous lisons 1 Pierre 3:15. 1 Pierre 3:15. Donc, tout ce que nous faisons là, bien-aimés, il ne faut pas que ce soit des choses qui réjouissent tout simplement notre cerveau. Il faut que ce soit des choses qui nous bâtissent pour nous préparer à l'œuvre de Dieu. C'est très important parce que on peut passer 10 ans de sa vie dans un milieu chrétien où on ne se pose aucune question sur Dieu, tout le monde est d'accord et le jour où on se trouve face à l'adversité, face à des gens qui contredisent la parole, on n'a rien à dire. Parce qu'on n'a jamais posé des questions, on n'a jamais pensé à des choses, parce qu'on a toujours été dans un milieu où tout le monde était d'accord avec le fait que la Bible était la parole de Dieu, Dieu était Dieu, Jésus était fils de Dieu, Dieu. Et puis, on peut être mal préparé ainsi à affronter le monde et à sauver les gens. Donc, pour être préparé à cela, il faut s'exercer aussi à répondre à des questions difficiles, s'exercer à résoudre certains problèmes difficiles à la lumière de la parole de Dieu. Nous lisons dans 1 Pierre 3,15 « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. » Donc nous n'allons pas chercher à convaincre les gens par ce que nous disons. Nous voulons tout simplement donner des explications bibliques de ce que nous pensons vis-à-vis des questions qu'on peut penser difficiles, donner des explications bibliques sans volonté de s'imposer sur les gens. Donc nous le faisons avec crainte et douceur, sachant que seul le Saint-Esprit peut convaincre les cœurs. Donc n'oublions pas cela. Jamais qu'on nous entraîne dans des débats où c'est la force de la voix qui a de l'importance, ni les raisonnements compliqués. Mais on doit rester toujours simple dans nos réponses en utilisant les instruments que le Saint-Esprit met à notre disposition. Donc je rappelle ces trois passages-là, 1 Pierre 3,15, Psaume 119, 130 et Tite 1,9. Ces trois passages-là sont la base de ce qu'on appelle dans les milieux chrétiens l'apologétique, c'est-à-dire la logique de défendre la parole de Dieu, de défendre la foi chrétienne. Toute église doit être aussi armée de cet instrument-là qui consiste à défendre la parole de Dieu, à défendre la foi chrétienne. Et pour cela, nous sommes amenés à étudier quelques questions difficiles, quelques problèmes qu'on peut retrouver. Nous commençons par un des points, peut-être que certains d'entre vous n'y ont jamais pensé, ou bien diront, mais bon, c'est pas quelque chose qui va troubler ma foi. Mais il faut savoir que il y a eu des temps où cette question-là a fait problème et que les chrétiens qui ne sont pas arrivés à répondre à cette question, bon, se sont retrouvés démunis. Et c'est vrai que le Saint-Esprit convainc, mais nous devons quand même être capables de défendre ce que nous croyons. Et nous lisons. Nous allons répondre à une des questions difficiles qu'on retrouve dans la parole de Dieu. C'est la femme de Caïn. Qui était, d'où venait la femme de Caïn? Puisque nous allons lire pourquoi ce problème. Genèse, au chapitre 4. Je pense que tout le monde connaît Caïn et Abel. Donc Caïn, c'est le premier fils d'Adam et Ève. Et Abel est le second. Et nous lisons donc au chapitre 4. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petits bétails et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. « Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. » Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable. Je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod à l'est d'Éden. Caïn connut sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. À Enoch naquit Irad, Irad engendra Mehuyael, Mehuyael engendra Metushael et Metushael engendra Lémec. Lémec prit deux femmes appelées l'une Ada et la seconde Sila. Ada accoucha de Yabal, celui l'ancêtre des éleveurs nomades. Le nom de son frère était Yubal, celui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Sila, de son côté, accoucha de Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. À Seth aussi, il naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voici le livre de la postérité d'Adam, le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'homme. Au moment où ils furent créés, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 930 ans. Puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch, et puis ainsi de suite. Voilà. Un des problèmes qu'ont sorti les anti-dieux à une époque donnée, parce qu'aujourd'hui, nous n'entendons pas parler de ce problème, mais il faut savoir que dans les années 1850-1900, il y a ce qu'on a appelé dans le mouvement chrétien des libéraux. Des gens qui ne considéraient plus la Bible comme étant toute la parole de Dieu. Ces gens-là, ce sont été les pires ennemis de la foi chrétienne. Parce qu'ils se disaient chrétiens tout en reniant l'authenticité totale de la parole de Dieu. Donc c'est les pires ennemis. Et ces gens-là ont influencé les païens à rester païens. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il y a certains qui, c'est eux qui ont fait des facultés de théologie qui, dans lesquels on entrait normal, croyant en Dieu, et on en sortait incrédule. Voilà, ce sont ces gens-là. Et ces gens-là, entre autres arguments, ils disent, bon, mais d'où Caïn a eu sa femme, puisque Adam a eu Caïn, il a eu Abel a été tué, et puis, bon, on dit que Caïn a connu sa femme, et puis, mais d'où est venue cette femme-là? Parce que c'est supposé qu'il n'y avait que deux personnes qui ont eu deux personnes, et puis les autres viennent d'où? Et on dit qu'il est parti dans le pays de Nod, ce pays-là. Donc, alors ces gens-là disent donc c'est qu'il y avait d'autres personnes, à part les Adam et Ève, donc il y avait d'autres personnes sur la terre. Bien sûr que cette explication-là est fausse. Pourquoi? Parce que la Bible est claire que nous sommes venus tous d'Adam. Dans Romains 5, 12, c'est écrit que le péché est venu par un seul homme et on sort du péché par un seul homme aussi. Donc c'est clair que même dans Actes des Apôtres, chapitre 10, 17, l'apôtre Paul explique que nous sommes venus tous d'un seul sang, d'un seul homme. Et là, quand on a donné même à... Quelle explication on donne au nom de Ève? On dit parce que c'était la mère de tous les vivants. Donc on dit, on lui a donné le nom de Ève parce que c'était la mère de tous les vivants. Donc la Bible est claire sur le fait que c'est Ève qui a engendré tous les vivants. Et Et dans Romains 5, c'est clair que c'est Adam qui est à l'origine de tous les vivants. Maintenant, et un autre problème se pose encore, parce que admettons, en admettant qu'il y ait eu d'autres personnes à part Adam et Ève et Caïn, tout ça, ça voudrait dire que ces gens-là vont rester non sauvés, puisque ne peut être sauvé que les gens qui sont venus par Adam, parce que Christ a été le dernier Adam pour sauver tous ceux qui sont venus d'Adam. C'est lui qui a clôturé les Adams pour les sauver tous. Donc c'est lui l'héritier de tous les Adams pour pouvoir les sauver tous en mourant à la croix. Et s'il y a d'autres qui sont venus pas d'Adam, ça voudrait dire que ces gens-là, ils restent non sauvés. Or, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est que ces gens-là aussi ont péché. Et malheureusement, puisqu'ils ne viennent pas d'Adam, donc ils ne sont pas sauvés. Or, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit clairement dans Romains 5, 12 que par un seul homme, le péché est venu, par un seul, et tous les hommes s'en sortent, peuvent s'en sortir. Alors, d'où peut venir cette femme? Premièrement, la Bible nous montre que c'est à l'âge de 130 ans que Adam a eu Seth. Donc nous lisons au verset 15. Non, pas au verset 15. Au chapitre 5 plutôt, au verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc, il est clair que il avait 130 ans quand il a eu Seth. Et nulle part, on dit que Seth était le troisième. On décrit juste le fait que on a eu Seth à partir à 130 ans. Et puisque par la suite, lorsqu'on clôture la descendance d'Adam, on clôture l'histoire d'Adam au verset 4, les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, il engendra des fils et des filles. Il nous est dit qu'en Adam a eu des fils et des filles. Donc, on ne nous a pas dit que c'était avant Seth ou après Seth, mais il en a eu. Donc, vu que Abel et Caïn, pour que Abel soit tué, Caïn et Abel avaient déjà un certain âge, on peut penser que avant qu'Abel soit tué, Adam et Ève avaient eu déjà d'autres fils et des filles, et que ces gens-là ont peuplé aussi la terre d'une certaine manière, et de sorte que lorsque Caïn a tué Abel, Dieu pouvait dire que personne ne tue Caïn. Parce qu'on ne voit pas pourquoi les gens vont tuer Caïn. Si c'était des étrangers, pourquoi ils vont tuer Caïn? Ça ne pouvait être qu'un proche d'Abel qui pouvait tuer Caïn par colère, par vengeance. Parce que y avait des gens qui étaient étrangers, et qui vont aller se venger auprès de Caïn, ça n'a aucun sens, puisque Caïn a tué son frère Abel. Donc pour que quelqu'un en veuille à Caïn, il fallait que ce soit aussi un frère, un parent Abel. Et donc il n'y a que Adam et Ève. Bon, voir qu'Adam et Ève tuent leur propre fils, c'est inexploitable, mais plutôt qu'il y ait eu des frères et des sœurs qui veuillent tuer Caïn, ça c'est logique. Et donc nulle part dans la parole, il est dit qu'avant Seth, Adam n'a pas eu de fils et de filles. Oui, Laurie. Alors, il peut y avoir un sens spirituel. Pourquoi? Parce que on est dans quel verset là? 25. Voilà. Il y a une note très, très, très importante lorsque on parle de la naissance de Seth. C'est la note au verset 26. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, Seth, à partir de Seth, c'est là que Adam et Ève ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Avant, ils n'avaient pas invoqué l'Éternel. Donc, on peut considérer que la naissance de Seth est une naissance spéciale. Et d'ailleurs, les gens de la magie, haute magie, ils utilisent le nom de Seth pour faire des bizarreries. Donc, ils disent qu'ils sont de la génération de Seth. Donc, c'est à partir de Seth. Seth est un point important dans l'enchaînement des choses après Adam et Ève. Donc, à partir de Seth, c'est là qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. Donc, sa naissance à lui est spéciale. Donc, quand Ève a dit que Seth a remplacé Abel, ça peut être aussi dans le sens spirituel qu'Abel était celui qui avait compris l'Éternel en faisant le sacrifice. Et Seth en venant, eux aussi, ils ont réalisé l'Éternel à partir de cela. Mais ça peut être aussi le fait que peut-être les enfants d'avant, c'était des filles et que maintenant, un garçon est venu. Donc, c'est aussi cette possibilité-là. Oui. Ah mais non, mais pas de la maison. Ils n'étaient pas obligés de vivre là. Mais quand Abel a tué, et Caïn a tué Abel, c'était pas dans la maison. Ils avaient déjà leur propre vie. Ils avaient déjà leur propre vie.
On a l'impression que c'est chronologiquement en fait.
C'est l'impression que ça donne. Mais ce n'est pas chronologique. Parce qu'on a des exemples comme ça dans la Bible, dans l'évangile de Jean. Quand vous arrivez déjà au chapitre 2, Jésus chasse les vendeurs du temple. Mais lorsque vous lisez les évangiles de Matthieu, Marc, tout ça, vous allez voir que Jésus chasse les vendeurs du temple tardivement. Jean ne respecte pas l'ordre chronologique. Jean parle des faits parce que en fonction du thème qu'il veut aborder. Et il cite les faits comme ça sur la vie de Jésus-Christ. Il ne cherche pas à les mettre d'une manière chronologique comme Luc qui a voulu vraiment assurer une chronologie par rapport à son côté scientifique. Jean, lui, tout ce qu'il veut, c'est faire comprendre des réalités spirituelles à travers les faits qu'il expose. Donc dans la Bible, il y a ce côté-là, il y a des endroits où Dieu ne veut parler, veut expliquer les choses. Il ne cherche pas à satisfaire une curiosité chronologique, scientifique, mais il cherche à parler. C'est pourquoi la naissance de Seth est très importante, parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi on ne parle pas des autres fils et filles? Pourquoi on n'en parle pas? Donc, on parle que de Seth, d'Adam et Abel. Donc, il y a une importance, Abel et Caïn. On devrait parler des autres fils et filles aussi. On n'en parle pas. Donc, parce que les trois-là ont un rôle à jouer dans la compréhension des choses par rapport à l'humanité et Dieu. C'est pourquoi on en parle. D'ailleurs, c'est précisé, à partir de Seth, on a commencé à invoquer l'Éternel. Et Adam, et Abel et Caïn, bon, ça nous permet de comprendre l'histoire du sacrifice par le sang qui a commencé dès le départ. Voilà, oui.
Non, moi je voulais dire que effectivement c'est pas chronologique parce qu'on parle du fils de Seth avant même de parler de la naissance de l'âge à laquelle Adam l'a eu quoi. Donc on voit bien que c'est pas chronologique.
On parle du fils de Caïn, tu veux dire.
Non, Seth eut un fils et il l'appela du nom d'Enoch et après ça c'est d'Enoch pardon. Donc ça c'est
quel verset
Genèse 4 verset 26. Et après, au Genèse 5, verset 3, on dit Adam, âgé de 230 ans, engendra un fils.
Voilà, un exemple de la non-chronologie. Quoi, voilà. Oui. Et puis même, on parle aussi des fils de Caïn, hein, de toute la descendance de Caïn, plusieurs descendances, avant même de parler de la naissance de Seth. Voilà, oui.
D'accord. Et en fait, quand on dit qu'à partir de Seth, en fait, ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel, c'est qu'avant... Ils étaient.
Je crois personnellement qu'avant la mort d'Abel, l'homme n'avait pas encore pris conscience qu'on pouvait mourir. Je crois que quand Abel est mort, l'homme a pris conscience que ce que Dieu avait dit, ça s'est accompli, on peut mourir, donc Dieu seul reste éternel. Et ils ont commencé peut-être à l'adorer en ce moment-là en tant que l'Éternel.
Avant ça, en fait, pour Adam et Ève, Dieu était toujours leur Dieu, ils étaient toujours...
Oui, mais ils ne l'appelaient pas l'Éternel.
Ah, d'accord.
Voilà.
Merci. pourquoi lorsque dans la Bible il parle de la... Voici, vers chapitre 5, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il parle de d'Adam, il parle aussitôt de Seth. Mais il ne parle pas de Caïn, parce qu'il parle de la postérité d'Adam. Donc Caïn est de la postérité d'Adam. Pourquoi est-ce qu'il parle de Seth, mais pas de Caïn?
Oui, parce qu'il y a une postérité globale et il y a une postérité officielle dans la lignée qui va porter le Messie jusqu'au bout. C'est Seth qui est de cette lignée-là.
J'ai pas bien compris ta réponse.
Il y a la postérité où il y a tous les enfants dedans, mais il y a la postérité liée à la relation avec Dieu. Et c'est Seth qui est de cette postérité-là. C'est pourquoi on ne parle pas des autres, parce qu'à partir de Seth, c'est là qu'on va retrouver les Enoch, on va arriver jusqu'à Abraham et on descend. Voilà. Uh-huh. Abraham, Jacob, jusqu'à Jésus.
D'accord. Voilà,
donc c'est ça. Pour bien voir, c'est dans le livre de Luc, dans la généalogie de Jésus, ça remonte jusqu'à 7. Voilà, c'est pourquoi on ne parle que de lui. Oui, oui. Mais qui a le micro? Ouais, vas-y.
Oui, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir. Enfin, je pense, il y a une expérience qui est menée depuis quelques années, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui arrive à des résultats scientifiques à l'heure actuelle. On a recueilli l'ADN de tous les groupes de population dans tous les continents. Et tous ces ADN-là, les plus proches, reviennent sur un groupe de 10 000 personnes au centre de l'Afrique qui ont l'ADN le plus resserré. Donc de là à penser qu'à l'origine, il y a un homme et une femme, je veux dire,
ce n'est pas loin.
La conclusion s'impose.
Voilà, donc c'est possible. Ce que la Bible dit, même scientifiquement, c'est possible, puisqu'aujourd'hui, on trouve que tous les ADN vont vers jusqu'à 10 000 personnes. Donc 10 000 personnes, ce n'est pas beaucoup lorsqu'on suit la descendance telle qu'elle est exposée dans la Bible du début. Oui.
Pasteur, à l'époque, je voudrais savoir, donc j'ai l'impression, à l'Ancien Testament, s'il y a eu un décès par rapport à le Père, donc, il y avait toujours, donc le père, il y avait la coutume pour que le père puisse dire tout simplement, oui, c'est le droit de naissance de l'enfant, oui, un enfant bien-aimé ou je ne sais pas.
J'ai pas compris.
Bon, tu vois, par exemple, par rapport à Seth.
À Seth, oui.
Voilà, parce que son père l'a donné le pouvoir, je peux dire en quelque sorte. Pas le pouvoir ou le mec, je ne sais pas.
Oui, Dieu a considéré que c'était le fils de la promesse. Quoi.
Voilà, c'est Dieu qui a... Voilà, OK. Et puis, par rapport à l'histoire de... J'ai oublié, les doigts d'Aînés.
Jacob voulez, et Esaü. Okay.
Voilà. Est-ce que c'est la coutume ou... À l'époque, donc, c'était comme ça, je vois. Donc, j'ai l'impression où...
Oui, mais puis, même aujourd'hui, on voit, par exemple, en Corée, c'est le plus jeune qui est devenu l'héritier de son père. Donc, quand un père meurt, il laisse quand même un héritier, comme eux, ils l'ont appelé le grand successeur. Donc, il reste un héritier majeur. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est dans toute l'humanité. Hein.
Ça, c'est dans toute l'humanité. Donc, nous, en tant que chrétiens, donc, dès que Jésus-Christ est venu, je pense qu'à cette époque-là, je pense qu'ils ont annulé cette loi-là. Je sais
non,
pas,
nous, en tant que chrétiens, il y a un ordre logique qui est l'ordre d'Aînés. Maintenant... je ne sais pas pour léguer quoi, pour léguer les biens.
Non,
pour léguer les biens, il y a un ordre d'Aînés. Maintenant, pour les choses spirituelles, c'est Dieu lui-même qui décide.
Ah, d'accord.
Qui l'élève. Voilà. C'est Dieu lui-même qui décide.
Donc, à l'époque, c'était le coutume, en fait.
Oui, en quelque sorte, c'était le droit d'Aînés normal. Droit d'Aînés normal. Maintenant, malgré ça, Dieu. Il y avait des exceptions, comme on a eu avec Jacob, comme on a même avec Seth.
Seth, oui.
Il y a des exceptions où Dieu s'impose lui-même. Voilà.
Comme c'est lui qui est parti, c'est David.
David, pareil, il y a des exceptions. Voilà. Joseph aussi. Oui.
Je voulais dire pour aussi appuyer cette pensée qu'il n'y a eu qu'un seul couple au commencement. On peut se référer aussi à la parole de Jésus dans Matthieu 19. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme?
Voilà, donc c'est ça. Donc le Nouveau Testament confirme cela, Jésus confirme ça, qu'il n'y a eu qu'un homme et une femme. Voilà, oui.
En fait, je ne comprends pas la contradiction de ces personnes. Dans quel intérêt, en fait, ils chercheraient la femme de Caïn, vu que...
Dans l'intérêt de montrer que la Bible a des contradictions, donc, ou bien des incohérences, des incongruités. Donc, ça ne mérite pas qu'on repose sur elle une confiance totale. Voilà, c'est ça le but.
Parce que pour eux, c'est pas évident que Caïn ait été obligé de prendre sa sœur du fait qu'il n'y avait que Adam et Ève.
Non, puisque eux, ils ont pris les choses d'une manière chronologique, Caïn, Abel, Seth. Donc c'est logique si on prend ça de cette manière-là, de dire, mais d'où est venue la femme de Caïn, puisqu'il y a eu Caïn, Abel, Seth.
D'accord. Parce que moi, on m'a justement posé cette question, mais j'ai répondu évidemment la sœur, enfin...
Oui, mais tu as dit la sœur, même parce que tu as une facilité d'accepter les choses que les orgueilleux n'ont pas, hein, que les gens qui veulent contredire n'ont pas. Maintenant, le grand problème, c'est de pouvoir leur répondre par rapport à ce qu'ils disent. Voilà. Donc, il ne suffit pas à nous de croire simplement, mais il faut être prêt à répondre aussi. Oui.
Oui, moi, je voulais dire par rapport à ça que le fait quand même de comprendre que la Bible n'est pas chronologique, ça aide à mieux saisir.
Dans certaines parties.
Ouais, parce que des fois, si on lit comme ça, on va se dire, mais il manque quelque chose. Enfin, comme si on ne comprend pas très bien. Mais le fait de comprendre que des fois, on peut citer un événement qui n'est pas forcément chronologique, ça aide à quand même mieux comprendre.
Ah oui, parce que voilà, on a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Et surtout, il faut comprendre que la Bible est un message. Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre qui porte un message. Et donc, la Bible va insister sur le message, pas sur la chronologie scientifique. C'est sur le message qu'elle insiste. Voilà. Oui.
Oui, si j'ai bien compris, tu dis que Seth peut-être serait né avant Caïn.
Non, pas du tout. Ah, 130 ans. Adam l'a eu à 130 ans.
Oui, il serait né avant que Abel soit tué alors.
Non, j'ai pas dit ça.
Ah ok, bon, non, j'ai mal compris. Non, d'accord.
Non.
C'est bon. Alors.
C'est après Abel, puisqu'il a remplacé Abel. Par contre, Caïn serait peut-être marié avant qu'Abel soit tué. Voilà. Puisqu'on peut penser que Adam pouvait avoir des fils et des filles avant cela. Ok, nous continuons. Un autre point, c'est que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on dit que Jésus-Christ a transpiré des gouttes de sang. Et puis certains disent, mais oui, mais ce n'est pas possible. Comment on peut transpirer, sortir des gouttes de sang? Ben, écoutez, bon, je vous donne un nouveau mot pour votre cerveau, hématohydrosis. Donc, allez chercher dans vos dictionnaires le mot hématohydrosis ou bien hématidrosis. Voilà, donc vous aurez l'explication. Cela est possible. Il y a des glandes. C'est quoi? Vous savez ce que c'est que les glandes sudoripares? C'est les glandes qui contiennent la sueur. Ces glandes-là, à côté de ces glandes, il y a des petites poches de sang. Et ces petites poches de sang, lorsqu'on est dans une anxiété forte, peuvent subir la pression des glandes sudoripares et s'éclater. Des petits vaisseaux capillaires. Sous forme de toile, quoi. Et ils peuvent subir une pression et s'éclater et sortir en même temps que la sueur et donner, faire transpirer en quelque sorte du sang. Donc c'est un phénomène qui aujourd'hui aussi se fait. Donc c'est vu déjà. Donc hématohydrosis ou bien hématidrosis. Voilà, donc allez vérifier dans vos dictionnaires là-bas. Oui.
Bah, j'allais te dire j'allais donner cette explication parce que je l'ai entendue à la télévision dans une émission qui était relative à Jésus et ils avaient donné cette explication-là, en fait.
Voilà. Donc c'est possible. Oui.
Mais je me demandais, en fait, il faut vraiment arriver à un niveau d'anxiété particulier, en fait, c'est ça?
Oui. Donc ils expliquent ça aussi. Donc on arrive à un niveau d'anxiété particulière, surtout avant la mort. Surtout avant la mort, quand on sent que les événements vont être très difficiles. Or, on sait que Jésus-Christ savait que les événements allaient être très difficiles pour lui. Et comme David nous l'explique, vaut mieux tomber, souffrir d'une maladie, vaut mieux souffrir de la faim plutôt que souffrir entre les mains de ses ennemis. Voilà. Jésus savait qu'on allait le lâcher entre les mains de ses ennemis. C'est la pire des souffrances. On allait le piétiner, se moquer de lui. Donc tout ça, il sentait cela et il était dans une grande anxiété et cela a produit ce phénomène-là d'hématohydrosis. Et c'est quelque chose qui existe. Alors, vous voyez comment, quand on est ignorant, on peut croire que la Bible se trompe. Voilà, c'est un des exemples comme ça, parce qu'on ne va pas citer tous les exemples. Tout ce qu'on cite pour exemple, comme exemple, c'est juste pour dire que, attention, la Bible est la parole de Dieu. Mais chaque question difficile a son explication. La différence entre un homme humble et un orgueilleux, c'est que l'homme humble dira, je ne comprends pas. Mais l'orgueilleux dira, puisque je ne comprends pas, ça n'existe pas. Voilà. Donc, il passe de son ignorance à la connaissance fausse. Alors que l'homme humble va dire, bon, je ne comprends pas comment cela a-t-il été possible. Mais l'orgueilleux va dire, c'est faux, c'est impossible. Oh, non, il faut dire que tu ne comprends pas. Donc, du moment qu'on dit, c'est faux et c'est impossible, donc on se met maintenant au niveau de la connaissance supérieure alors qu'on n'en a même pas. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est connu. Et beaucoup de gens, maintenant, sont tranquilles là-dessus. Donc, même les anti, les opposants, des gens qui sont au courant de ces phénomènes, le savent que ce qu'a dit la Bible est la vérité. Et point n'est besoin de contredire cela. Ça peut arriver. Oui.
Aujourd'hui, on parle de si, par exemple, un frère a des enfants avec sa sœur, on parle de consanguinité, de problèmes génétiques, de maladies. Si quelqu'un a épousé sa sœur, il n'y a pas eu ce problème. Comme par rapport à ça...
Oui, donc ça, on peut donner une explication déjà biblique. C'est que l'interdiction d'épouser sa sœur n'est venue qu'avec Moïse, donc dans Lévitique 18. Avant ça, ce n'était pas interdit. D'ailleurs, on retrouve que certains n'ont pas, dans le monde arabe par exemple, certains continuent avec ces pratiques-là, pas d'épouser la sœur directe, hein, mais la cousine des cousines. Et c'était quelque chose donc, qui se faisait avant la loi de Moïse. Et on peut considérer que Dieu avait permis jusqu'à ce moment-là, vu la distance entre la création et Moïse, en ce moment-là, Dieu a considéré que l'homme, les gènes de l'homme étaient suffisamment affectés par le péché pour que, en se mariant, ça crée vraiment des sérieux problèmes. Dieu a arrêté cette façon-là de faire. Donc, on peut supposer que les premiers hommes n'avaient pas cette dégénérescence forte qu'on retrouve aujourd'hui qui fait qu'il y a une plus grande probabilité quand on épouse sa sœur ou sa cousine d'avoir un enfant avec des malformations. Donc les premiers hommes n'ont pas connu encore une grande dégénérescence dans leur gène. Et avec le temps, la dégénérescence augmentant, ça, à un moment, Dieu a compris qu'il fallait arrêter avec ça. Il a donné la loi par Moïse. Donc on peut supposer cela. Oui.
Pour ceux qui se sont mariés comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire?
Avant Moïse?
Non. Ouais,
maintenant oui. Il faut me sortir le cas et puis on discutera cas par cas. Hein.
Oui, c'est par rapport à ma sœur, donc ma sœur propre, elle s'est mariée avec donc, l'enfant de...
Donc, l'enfant d'un oncle.
Voilà.
Bon. Je pense qu'ils doivent se séparer.
Ils ont 8 enfants, d'autres sont devenus des avocats, tout ça. Donc.
Ah oui, mais ce n'est pas les avocats qui vont changer la parole.
Non, j'ai dit, t'as dit qu'il faut se séparer, mais c'est ça que je t'ai dit, que ça fait plus de 20 ans.
Oui, mais ils peuvent
ans.
Se séparer toujours, du moment qu'ils sont au courant. Ils peuvent se séparer. Ils se séparent. Parce que Matthieu 19 qui autorise, qui dit que dans Matthieu 19, c'est écrit, l'homme ne peut pas se séparer. Se séparer de sa femme, sauf en cas d'adultère, Dans d'autres versions, c'est écrit en cas d'union illégale. Donc, je pense que c'est une sorte d'union illégale. Mais maintenant, ils sont dans la connaissance, ils doivent se séparer. Oui, mais... oui, on m'a fait manger là-bas, mais maintenant que... Oui.
Oui, je voulais savoir quelle est l'attitude qu'il faut avoir face aux contradicteurs lorsqu'ils nous posent des questions, par exemple, qui ne sont pas explicables. On te dit d'expliquer un miracle scientifiquement, par exemple, dans la Bible. On ne peut pas.
Oui, mais c'est ça la définition du miracle. C'est quelque chose de surnaturel.
Parce qu'il y a des chrétiens qui viennent et il y a des contradicteurs qui posent des questions qui sont, par exemple, inexplicables. Quelle attitude adopter?
Mais moi, par rapport à ta question directe, expliquer un miracle, je veux dire, mais la définition même du miracle, c'est ça. C'est quelque chose qui dépasse la procédure normale. Donc, je ne peux pas l'expliquer, puisque ce n'est pas la procédure normale. Donc, on va y arriver quand on va parler de Jonas même. Voilà. Donc, nous prenons de... Oui.
Oui, pasteur, je voulais revenir sur ce que tu as dit par rapport au phénomène d'hématoïdrésiste. En fait, qu'est-ce que ça voulait montrer? Ça voulait dire qu'il y a des gens qui disent que c'est un phénomène, en fait, miraculeux ou bien improbable, ou est-ce que c'est aussi le cas où on peut dire, mais finalement, il n'y a rien de particulier, puisque c'est un phénomène qui se produit, c'est prouvé scientifiquement?
Ah oui, ça ne montre que l'anxiété de Jésus. Ce n'est pas un miracle.
Voilà,
ça montre ça. Plutôt le degré d'anxiété dans lequel il était plongé. Le degré de souffrance morale. D'accord.
Parce qu'en fait, moi je
mental
sais que
plutôt, oui.
Avant, moi je le prenais comme quelque chose de surnaturel, en disant, mais c'est surnaturel, comment quelqu'un peut avoir des gouttes de sang? C'est comme ça que je le prenais. Mais une fois que j'ai eu l'explication... Donc j'ai compris que c'était scientifique. Mais d'autres aussi peuvent croire que c'est quelque chose de surnaturel.
Voilà, mais ce qui est plus grave, c'est que certains croient que c'est faux. Voilà. C'est plutôt ça qui est grave. Mais quelqu'un qui mettait ça, comme nous, avant de connaître cette histoire d'hématoïdrosis, on mettait ça dans la logique du surnaturel, bon, là, il n'y a pas de problème. Mais croire que c'est faux parce qu'on ne comprend pas, ça, c'est ce qui fait problème. Okay. Donc, beaucoup sont dans cette conception-là. Je ne comprends pas, c'est faux. Je n'ai jamais vu ça, c'est faux. Non, c'est toi qui n'as pas vu, c'est toi qui ne comprends pas. Donc, d'autres peuvent comprendre, peuvent expliquer. Voilà. Oui.
Pasteur, pour ce cas-là, c'est le cas de Jésus-Christ. Mais par exemple, d'autres personnes qui sont en train de... posterné devant quelque chose, soit disant il y a le sang qui coule. Si tu dis que c'est vrai cette chose-là, bon, d'autres personnes s'ils entendent comme ça, ils disent ah tu vois, il est Jésus aussi, tu vois.
Oui, donc ce n'est pas comme frère vient de dire. Donc il y a des gens qui effectivement qui se prosternent parce qu'ils ont vu une statue faire couler du sang. Voilà. Donc nous ce qu'on veut montrer c'est que c'était pas un miracle pour le cas de Jésus, c'est un phénomène lié à une forte anxiété, à une forte angoisse. Maintenant, si la Bible dit dans Matthieu 24:24 que les mauvais esprits feront aussi des prodiges, des faux prophètes feront des miracles au point de séduire même les élus. Donc la réponse qu'on donnera à ces gens-là qui voient le sang couler d'une statue, c'est que Satan est capable de faire aussi des miracles. Tout ce qu'on demande, c'est que si le feu prend dans le bâtiment, que la statue court. Là, on acceptera que cette statue a de la puissance. Mais si le feu prend dans le bâtiment, la statue est là toujours, il faut qu'on la porte encore. Donc ce n'est pas un dieu, c'est rien du tout. Donc c'est ça la question. Oui.
Oui, à ce sujet, j'avais entendu dire, est-ce que c'est vrai ou pas, que justement dans une église, je ne peux pas vous la citer parce que je ne sais pas, il y avait une statue de la Vierge. Et alors paraît-il qu'avant que l'on ouvre l'église, les personnes allaient justement brancher les tuyaux sur des réserves d'eau de façon à ce que la statue pleure quand les gens venaient devant.
Ah, voilà, donc finalement c'était une machination. Voilà, donc organisée. En général, c'est toujours comme ça, hein, en général. Et on finit par découvrir. Mais même si c'était le cas, ce sont des miracles sataniques, et ça ne prouve rien du tout. Dieu seul reste Dieu. Voilà, troisième point, c'est qu'il y a des gens qui disent, mais oui, mais la Bible ne parle pas des dinosaures. alors qu'on découvre le squelette de dinosaures. Donc il y a un problème avec la Bible, puisqu'elle ne parle pas de dinosaures. Un, ces gens-là qui disent que la Bible n'en parle pas, ils n'ont même pas lu la Bible. Ça, c'est un. Et de deux, donc on va y revenir, c'est qu'on vient d'expliquer que la Bible est un message. La Bible ne cherche pas à devenir un livre de zoologie, de botanique, ou d'économie, ou d'histoire. La Bible porte un message. Donc il y a les détails. Aujourd'hui, bien-aimé, si on fait ta biographie, est-ce que dans ta biographie, on va mettre que dans les années 1998, tu avais une chaussure avec 15 cm de talon? Non, on va mettre dans ta biographie, on va raconter les événements qui ont vraiment influé ta vie. On ne va pas raconter le nombre de débardeurs que tu avais. Donc, non, voilà. Donc, la Bible n'est pas là pour raconter tout sur l'humanité, tout sur. Non, la Bible a un message de salut pour les humains. Et dans ce message de salut, il y a des détails sur l'environnement, on n'en disconvient pas. Il y a des détails aussi sur l'homme, on n'en disconvient pas. Ça, c'est. Donc, maintenant, nous revenons à l'histoire comme quoi la Bible ne parle pas des dinosaures. C'est faux. La Bible en parle, mais sauf que le mot qui est utilisé, ce n'est pas le mot dinosaure, mais c'est d'autres mots. C'est le mot béhémoth. C'est le mot tanin. Donc on prend Job 40, c'est le passage qui parle d'un animal semblable à un dinosaure sans utiliser le mot dinosaure. Job 40. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, le discutailleur, va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réponse à cela? Et puis, donc ça c'est l'introduction pour nous dire, les gens qui discutent, qui parlent trop, est-ce qu'ils vont vraiment rivaliser contre Dieu. Et on va au verset 15. Voici le béhémoth. Dans votre version, c'est écrit l'hippopotame. Hein? Dans certaines versions, c'est écrit l'hippopotame. Qui a le béhémoth? Pardon? Commence au verset 10. Ah, chez moi, c'est verset 15. Hein. Voici l'hippopotame, c'est verset 15. 10. Ah bon? Montrez-moi les Bibles qui ont verset 10. Bon, ça, c'est un truc qu'on va résoudre plus tard. Allez, on continue. Voici. Donc, on lit quand même la même chose. Voici, chez vous, c'est l'hippopotame. Mais voici le béhémoth. Le mot original, c'est béhémoth, qui veut dire animal gigantesque. Voilà, qui ne veut pas dire hippopotame. Les gens qui ont traduit ont cherché un animal le plus gigantesque qui puisse ressembler à ça. Ils ont pris l'hippopotame. Mais pour que ça soit compréhensible par nous, mais le mot original ne veut pas dire hippopotame, veut dire animal gigantesque. Voici le béhémoth. Et maintenant, dans sa description, on va voir s'il ressemble à l'hippopotame. Que j'ai formé comme toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Jusque-là, pas de problème avec l'hippopotame. Il raidit sa queue comme un cèdre. C'est quoi un cèdre? Un arbre. Donc là, qui a déjà vu la queue d'un hippopotame? Donc, il y a beaucoup qui n'ont pas encore vu, donc vous ne regardez pas la 5 entre midi et combien là? Entre 11h et midi, vous allez voir c'est quoi la queue d'un hippopotame. Donc, arrêtez de regarder les séries, mais regardez les documentaires sur les animaux pour contempler la création. L'hippopotame a une queue d'environ 10 cm. Hein. 10 cm, 5, 10 cm. Hein. Et puis, qui n'a même pas de force. Hein. Voilà. Alors, il raidit sa queue comme un cèdre. Et cèdre, ce n'est pas n'importe quel arbre, c'est un grand arbre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze, son ossature comme des barres de fer. Qui a déjà vu les os d'un hippopotame? Est-ce que c'est comme des tubes? Les pattes de l'hippopotame, c'est comment? C'est tout petit, donc voilà. Donc on ne peut pas comparer quelque chose de court à un tube. Quelque chose qu'on compare à un tube doit être forcément long. Donc on ne peut pas comparer quelque chose de court à un tube. Son ossature comme des barres de fer, c'est la même chose. Quelque chose de court ne peut pas être comparé à des barres de fer. Quand on voit barres de fer, on voit quelque chose de long et de solide. Et puis verset 19, il est la première des œuvres de Dieu, celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Est-ce que l'hippopotame a une épée? Et cette épée-là, ça doit être quoi? Quel animal peut avoir une épée? On peut dire qu'il a une sorte d'épée. Le rhinocéros, vous voyez. Donc là, il ne s'agit pas de l'hippopotame parce que l'hippopotame n'a pas ça. C'est peut-être, voilà, le rhinocéros. Et donc cet animal-là dont il est question a une corne Jean rhinocéros. Les montagnes lui fournissent sa pâture, là où se jouent tous les animaux de la campagne. Il se couche sous les lotus. Donc c'est pourquoi ils ont pensé à l'hippopotame, puisque le lotus est dans l'eau. Dans le secret des roseaux et des marécages, les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules du torrent l'environnent. Si le fleuve devenait violent, il ne s'alarmerait pas. Si le Jourdain se précipitait dans sa gueule, il resterait en sécurité. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra le saisir? Est-ce qu'on le prendra au piège pour lui percer le museau? Voilà, bien aimé, pourtant l'hippopotame, on le prend quand même. Hein. Mais bon, là, on parle de cet animal qu'on ne peut pas prendre au piège pour percer le museau. Donc, il s'agit bien de la description d'un dinosaure parce que la queue est comme un arbre. Donc, quand on voit le Diplodocus pour les amateurs de ce genre de dessin animé, là, le Diplodocus ressemble un peu à ce qui est décrit là. Donc, avec une queue comme un cèdre et autre chose. On peut penser au verset 25 qui parle du Léviathan. Prendras-tu, et dans certaines versions, c'est écrit le crocodile. Mais bon, on va voir la description, ce n'est pas trop crocodile. Prendras-tu le Léviathan à l'hameçon? Liras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans son museau? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? T'adresseras-tu de longues supplications? Te dira-t-il? Donc, on parle d'un animal aussi qui est immense et qu'on ne peut pas prendre comme on prendrait un animal simple. Alors qu'aujourd'hui, nous savons qu'un seul homme suffit pour capturer un crocodile, hein. Avec un filet, un homme peut arriver à capturer un crocodile. Et, alors que ce n'est pas le cas pour ce Léviathan. Alors, oui, question. Voilà, c'est réglé. Donc, c'est pour nous dire que cela est possible. Et on se souvient aussi qu'il y a, avec Jonas, un animal, un gros animal marin qui a avalé Jonas. Nous, c'est écrit poisson, mais le mot original ne veut pas dire poisson, c'est juste un animal marin immense. Voilà, donc, et la Bible ne cherche pas à donner des détails de zoologie, de botanique. La Bible apporte un message. Toujours est-il que nous avons cet élément de Job 40 qui nous montre qu'il y a eu, il y a eu des dinosaures, la Bible en parle. Et vous savez, la Bible parle aussi souvent des dragons. Je vois mal que la Bible parle des dragons, parce que dinosaure veut dire petit dragon ou un truc de ce genre-là. Voilà. Donc il y a le mot dragon dans dinosaure. Donc, je vois mal que la Bible parle des dragons sans qu'il en ait existé d'une certaine manière. Souvent, l'homme, pour inventer l'avion, le bateau, beaucoup de choses, s'est inspiré de ce qui existait déjà. Donc je vois mal que dans la littérature, on parle des dragons sans qu'ils aient existé. Donc il y a eu une existence et on voit que dans les autres littératures, on retrouve aussi des êtres extraordinaires comme les cyclopes, des géants, quoi. Et on retrouve des êtres extraordinaires. C'est qu'il y a quand même eu une sorte d'existence de ce genre de personnages, oui.
Et moi, je voudrais savoir, parce que les homo sapiens, tout ça, ils n'existent pas.
Non, ça, maintenant... tout ça, c'est des amusements. C'est des ossements de singes, et puis on dit c'était l'homme, ceci, l'homme, cela.
Donc ça veut dire que pour le cas de Lucie, l'Australopithèque, là, ils ont dit qu'ils ont retrouvé des os.
C'est un animal, c'est pas un homme. Maintenant, les gens disent, oh, mais on dit simplement c'est un animal. Bien aimé, le problème, c'est que comme le monde est dirigé par des gens qui veulent nous faire croire à l'évolution, ils omettent de nous dire les découvertes qui prouvent que ce qui a été annoncé est faux. On nous donne des découvertes, mais quand dans le monde scientifique, on contredit ces découvertes, ben, ils omettent de nous le dire. Aujourd'hui, quelle est la version officielle selon laquelle les dinosaures ont disparu? La version officielle, c'est quoi? C'est une météorite est venue du ciel, a cogné la terre, a rempli la terre d'un nuage de poussière, et pendant des mois ou des années, la lumière ne passait plus jusqu'à la terre, et donc les plantes n'ont pas pu se développer parce que les plantes ont besoin de lumière, et donc les dinosaures manquant de nourriture, ils sont morts. C'est ça la version, mais on ne vous dit pas qu'il y a 55 versions sur la mort des dinosaures. On nous présente la version qu'on veut qu'on accepte dans les éducations nationales. Donc il y a une sorte d'entente entre les Illuminati et les gens qui dirigent le monde pour présenter une version. Mais on ne vous dit pas que dans le monde scientifique, il y a en réalité 55 versions de possibles explications pourquoi les dinosaures ont disparu. Et on nous dit simplement c'est une météorite. Mais, et quand vous allez aller dans le monde scientifique lire les autres hypothèses, on va balayer cette hypothèse de météorite comme si c'était rien du tout. On va vous expliquer ce qui ne marche pas avec cette hypothèse, entre autres le fait pourquoi les dinosaures seulement sont morts, pourquoi pas les autres animaux. Non. Il y a des exemples, il y a des questions simples. Mais quand c'est présenté par quelqu'un qui porte des lunettes avec une blouse blanche. Qui parle donc, avec une posture, les journalistes, même quand ils posent la question, les journalistes ont peur. Donc, quand les gens voient comme ça, ils disent, mais si de telles personnes disent ça, c'est vrai. C'est faux. Ça, c'est les apparences. C'est les apparences. Devant les scientifiques du même niveau, ils n'auront pas cette assurance-là. Oui, oui.
Oui, c'est pas la première fois que j'entends parler de ce passage par rapport aux dinosaures, de ta part. Et moi, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que par rapport aux dinosaures, bon, moi, je me disais, bon, je sais pas, j'ai pas de réponse par rapport à ça, mais moi, je suis d'accord pour dire que bon, l'hippopotame sûrement correspond pas. De là à dire que c'est les dinosaures, ça me paraît pas tout à fait clair. Est-ce que j'ai l'impression que peut-être, pour absolument avoir une réponse à ça, mais le passage me semble pas clair. Behemoth, ça veut dire littéralement, d'après les annotations, la bête par excellence. Donc c'est une grosse bête. On conclut que c'est un dinosaure.
Non, une grosse bête, hein, c'est pas... un animal gigantesque.
Oui, d'accord, mais bon...
Bon, quel est l'animal gigantesque qu'il peut avoir?
C'est peut-être une probabilité affirmée. Moi, ça me paraît hasardeux, quoi.
Oui, mais ce qui est sûr, ce n'est pas l'éléphant. On est d'accord.
Sans doute que non. Parce que voilà. Ça ne correspond pas non plus. L'éléphant.
Voilà, ce n'est pas l'éléphant, ce n'est pas l'hippopotame. C'est qui, alors?
Bon, moi, je ne sais pas. Je reste sur le « je ne sais pas ».
Voilà. Non, mais c'est pour dire que... Mais nous, aussi, quand on dit les dinosaures, on n'a pas décrit avec... précision ce dinosaure, c'est que ce n'est pas les éléments, les animaux que nous on voit. Donc ils sont forcément d'une taille supérieure parce que malgré le fleuve qui vient dans sa gueule, ça ne lui fait rien. Donc il y a quand même une comparaison, le fleuve qui vient dans sa bouche, et donc ce n'est pas n'importe quel animal qui peut affronter le fleuve qui vient dans sa bouche. Il y a une description, et je crois que même la version que moi je lis manque d'acuité, mais il y a d'autres versions où on sent vraiment que c'est un animal plus gigantesque que cela, quoi. Maintenant, comme on ne trouve pas dans notre environnement un tel animal, donc c'est clair que c'est un animal qui a disparu, puisqu'on ne le trouve pas. On ne le trouve pas. Oui.
Je voulais seulement dire, dans ma version, il parle d'un monstre, avant de parler d'hippopotame. Il dit que regardez bien ce monstre qu'est l'hippopotame. Donc on parle d'un monstre, ça veut dire.
Voilà, bon. Mais est-ce que l'hippopotame, c'est un monstre? Non. Enfin. Oui, mais c'est les traducteurs de l'époque qui ont voulu. Parce que, vous savez, on est des humains, beaucoup ont été influencés par les histoires de Darwin et tout ça, et puis, voilà, et surtout par ce qu'ils voient avec leurs yeux. Donc, puisqu'ils ne voient pas d'autres animaux qui puissent vivre près des eaux, il n'y a que l'hippopotame. Bon, mais là, mais quand on lit clairement, ce n'est pas un hippopotame. Oui.
Je sais pas, c'est quoi ta position sur le créationnisme versus l'évolutionnisme? Bon, on est.
Non,
on
moi
est
je suis ni créationniste ni évolutionniste, je suis Bible.
Ben, les créationnistes sont Bible, non?
Non, le danger, quand tu dis tu es créationniste, donc c'est que tu te ranges sur une sorte de théorie qu'eux aussi ils ont bâtie.
Ah bon?
Ah parce oui, que moi ils ont une théorie avec des explications pour tout.
Parce que je pensais qu'ils étaient basés sur la Bible.
Oui, mais sauf qu'ils expliquent tout. Ouais. Moi, je pense que, bon, il y a des choses, je préfère rester biblique. Maintenant, s'il y a des choses que je ne peux pas expliquer, je m'arrête là. Je ne peux pas tout expliquer.
Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment calés à ce niveau-là, mais ils sont des scientifiques, des gens comme des professeurs de biologie, tout ça, et qui ont fait des recherches approfondies scientifiques qui soutiennent.
Oui, le danger du créationnisme, c'est quoi? C'est de vouloir démontrer la Bible par la science. C'est ce que je refuse.
Ou soutenir la Bible par la science.
Pardon?
Ou soutenir la Bible.
C'est pas bon. Donc, on peut. Quand je dis c'est pas bon, c'est dans le sens où que la science prouve ou pas la Bible est vraie.
Ah, si c'est purement la science qui.
Voilà. Si on commence à dépendre de la science. Mm-hmm. Pour considérer la véracité de la Bible, c'est là le danger que je refuse. Voilà.
Okay.
Donc, que la science prouve ou pas, la Bible est vraie. Maintenant, si on trouve des coïncidences entre science et Bible, on est heureux. Bon, ça réjouit notre chair. Voilà. Mais maintenant, nous, on croit, moi, je crois bêtement que la Bible est vraie.
OK, parce que d'une manière, j'entends ce que tu dis, et j'ai entendu beaucoup de choses sur les créationnistes, etc. Ils emmènent beaucoup de gens à la foi à travers leurs messages.
Oui, mais il y a un piège. Le piège, c'est quoi? Le jour où tu as amené quelqu'un par des explications scientifiques à la foi, le jour où d'autres explications scientifiques contrediront clairement les explications qui l'ont amené à la foi, il va encore se reculer. C'est ça le piège. C'est pourquoi il faut seul le Saint-Esprit convainc.
Okay.
Maintenant, on peut toujours attirer quelqu'un, comme on peut attirer aussi par les miracles. On attire les gens, soit par des explications scientifiques, soit par les miracles, mais quand il faut accéder à la conversion, que ce soit par rapport à la parole toute simple. Mm-hmm. Voilà. Mais ça peut servir à attirer les scientifiques, à attirer les gens qui raisonnent. On les attire et on en profite pour prêcher la parole toute simple afin qu'ils se convertissent en fonction de cette parole toute simple.
Est-ce qu'on ne gagne pas un petit peu à être un peu informé quand même?
Ah oui, mais c'est ce qu'on fait. On essaie de s'informer, mais sans vouloir nous reposer sur les informations scientifiques.
OK.
Nous reposons sur ce qui est écrit. Maintenant, nous essayons d'éclairer là où on peut éclairer à base en utilisant certains domaines parallèles, la science ou autre chose.
C'est délicat parce que tu sais, je pense à ce qu'il dit, Jonathan, tout ça. S'il entend des présentations de gens qui ont des recherches qui ont prouvé que les dinosaures ont existé, puis tout ça, ça peut. Ben, il y a déjà la foi, mais je veux dire, ça peut être intéressant.
J'ai pas compris. Ah, si.
Parce que lui, il
non,
semble
lui,
pas.
Non, lui ne conteste pas l'existence des dinosaures. Okay. Il dit simplement qu'à partir de Job 40, on ne peut pas conclure. Il ne conclut pas directement que c'est un dinosaure, mais il ne conteste pas l'existence des dinosaures.
OK.
Voilà.
Ouais.
À quelque part, je me dis, les chrétiens ont besoin de la Bible. Ça, c'est la première chose, mais ça fait pas mal de savoir d'autres choses.
Ah oui, mais on a donné, j'ai donné juste le bémol, ouais. Que le danger, c'est qu'on s'appuie sur autre chose pour suivre la Bible. Ouais. On ne doit pas le faire. On suit la Bible. S'il y a quelque chose qui confirme, gloire à Dieu, mais nous, on suit la Bible. Voilà. Parce que, imagine maintenant quelqu'un qui est dans la forêt équatoriale, peut-être que tu vas lui amener les recherches des savants américains pour lui prouver. Que... Non. Donc tu te baseras, tu compteras sur le Saint-Esprit dans la prédication pour le convaincre. Maintenant, dans d'autres milieux où il y a des problèmes de ce genre qu'on est en train d'énumérer, donc c'est pourquoi on s'emploie à vouloir défendre, éclairer du mieux qu'on peut. Voilà. Mais que ça ne soit pas une façon d'agir. C'est juste que qu'on ait les informations et qu'on soit prêt à se défendre quand on peut. Maintenant, si on ne peut pas, on dit à la personne que Dieu est grand, il n'a qu'à voir la beauté des fleurs et il le saura, quoi. Oui, oui. Oui,
oui, il faut. Je pense que si on parle de l'hippopotame, bon, il y a des notes qui parlent d'éléphants, d'autres qui parlent de bêtes extraordinaires. L'hippopotame est un des animaux les plus dangereux. Ils sont imparables. Ils sont les plus dangereux et il y a des dizaines de morts chaque année à cause des hippopotames. J'ai vu moi-même une Land Rover pliée par un hippopotame en colère parce qu'on s'était mis entre l'eau et l'endroit où il mangeait son herbe, où il paissait. Il a écrasé. La Land Rover ne ressemblait qu'à une galette. Et c'est vraiment l'animal le plus dangereux. Plus que les lions, plus que tout ça, il est très dangereux parce qu'il est imprévisible. Mais surtout, jamais se mettre entre lui et l'eau. Ça, c'est un cas de mort. Il poursuivra jusqu'à la mort.
D'accord. Mais la description ne correspond pas totalement.
Elle ne correspond pas.
Mais on prend l'information de ne jamais se mettre...
C'est parce que le dragon peut, ou le dinosaure peut être un animal extrêmement dangereux, mais si on a pris cette image-là, c'est que c'est vraiment un animal très dangereux.
Mais maintenant, justement, comme Ginette disait, les scientifiques chrétiens sont en train de démontrer, par exemple, que le tyrannosaure, il n'était pas dangereux. Celui qu'on nous présente dans des films comme... très dangereux, il n'était pas dangereux, le dinosaure n'était pas dangereux, et beaucoup étaient des herbivores. Donc ils n'étaient pas dangereux pour les êtres de chair. Les films donnent l'impression que le tyrannosaure, c'était un animal très très dangereux. Et aujourd'hui, on est en train de prouver le contraire. C'est ça avec la science, c'est pourquoi reposer sa foi sur la science peut jouer des tours. Parce que ce qu'on peut dire vrai aujourd'hui dans la science, à 50 ans après, on va dire que ce n'est pas vrai. Donc, faut vraiment que notre foi soit basée sur la parole. Voilà, nous continuons. Il y a le problème des extraterrestres. Donc, il y a des gens qui disent que... Bon, il y a probablement des extraterrestres, d'autres créatures... Ce que nous savons, c'est qu'il y a des anges, il y a des humains et il y a Dieu et les animaux sur la terre. Maintenant, qu'il y ait des extraterrestres, je ne sais pas quel rôle ils vont jouer. La Bible nous parle du ciel et de la terre. Et dans le ciel, il y a des esprits. Maintenant, il y a des bons esprits, c'est les anges de Dieu. Il y a des mauvais esprits, c'est les anges du diable. Mais nous parler d'autres créations, d'autres créatures, non, la Bible ne nous en parle pas. Et je pense que ça fait des décennies que la NASA a lancé dans l'espace une sonde avec la formule, avec la formule d'Einstein, énergie égale à mc carré, et les musiques des Beatles, de n'importe quoi dedans. Je ne sais pas qu'est-ce que l'extraterrestre va trouver dans la musique des Beatles. Donc ils ont mis toutes ces choses-là dans la sonde pour chercher les extraterrestres. Ah, bon, jusque-là, on attend toujours et je crois qu'on attendra toujours. Et je pense que ça n'existe pas. Bon, on va lire peut-être un petit verset, psaume 115, verset 16. Il y a même une secte des Raéliens qui prétend que... Il y a des extraterrestres qui sont venus lui donner la révélation. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Voilà. Donc le ciel qui dirige là-bas, dans le ciel, c'est Dieu. Et la terre, il a donné aux êtres humains. Donc on ne parle pas d'autres créatures qui feraient je ne sais quoi, qui seraient beaucoup plus civilisées. Non, bon. La Bible est claire, Dieu a créé l'homme à son image. Et à part l'homme, on parle des anges démoniaques et des anges de Dieu. Donc cette histoire d'extraterrestres, ce n'est qu'une invention pour distraire les gens et aussi peut-être pour les préparer à la présence des démons. Plus tard, il y aura des démons qui reviendront, sachant que dans tous les cas, ils sont perdus. Ils se permettront de revenir se matérialiser, comme ce fut dans la Genèse. Dans la Genèse, il nous est question des esprits qui se sont matérialisés pour avoir des relations avec les femmes de ce monde. Et on pense que peut-être à la fin des temps, de tels les démons prendront encore cette liberté qui leur est fortement refusée par Dieu pour se matérialiser et les chrétiens, les terriens diront les extraterrestres sont là et certainement ils seront gentils et les humains peut-être se feront avoir par tout ça. Non, il ne faut pas croire à tout ce que, à ces choses-là. C'est de l'escroquerie.
Est-ce que ça ne va pas servir à donner une explication à l'enlèvement des chrétiens lorsque les gens vont disparaître, qu'ils aient été enlevés par des...
C'est possible, c'est possible.
Des extraterrestres.
Pour laisser les gens toujours incrédules, mm-hmm. On préférera dire que c'est les extraterrestres qui les ont enlevés plutôt que Jésus qui les a enlevés.
Est-ce qu'il faudra bien trouver une explication à la disparition des gens, en fait?
Voilà.
Donc,
C'est possible, oui.
Donc, en fait, on peut comprendre que c'est un problème de terminologie, en fait. Parce que si on remplace le mot extraterrestre par démon, on peut dire que c'est la même chose. Je veux dire, dans le sens où les phénomènes qui sont parfois constatés sont réellement constatés. Bon, les autres vont dire non, mais ce sont des extraterrestres. Mais un chrétien peut dire non, on sait que ça, ce sont des démons qui agissent. Par exemple, on voit ce qui s'est passé avec les Allemands, dont on disait qu'ils avaient une intelligence artificielle pour créer des fusées en si peu de temps. Ils n'arrivent pas à comprendre comment des hommes ont pu créer ces genres de choses en si peu de temps et le progrès aussi technologique.
Mais les Allemands disent...
Oui.
Ah non, il n'y a aucune explication compliquée à ça.
Oui, justement, eux, ils disent que les Américains avaient déjà... Bon, ça, ça n'est pas un peu compliqué, mais que les Américains avaient déjà une avancée technologique, mais que quand ils ont découvert ce que les Allemands étaient en train de faire avec les fusées et tout ça, ils se sont dit, mais en combien de temps ils ont pu effectuer tout ça, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir les moyens financiers, avec les savants et tout ça, pour arriver à un tel niveau. Ce qui expliquait, en gros, les deux blocs, Est-Ouest. Et donc, ils disent qu'ils avaient une intelligence artificielle. Bon, ça, c'est un mouvement qui dit ça, hein, qu'ils avaient une intelligence artificielle et qui leur a permis, en fait, de dominer comme ça et qu'on ne comprend pas comment ça se fait qu'ils ont été arrêtés aussi vite.
Donc, qui, les Allemands ?
Oui.
Donc, c'est la preuve qu'ils étaient humains, tout simplement. Hein.
Voilà, mais eux disent que, en fait, il y avait eu l'intervention d'une intelligence artificielle.
Pour faire que les Allemands fassent rapidement les choses.
Voilà, pour faire qu'ils fassent ça rapidement.
Oui, moi, je dirais intelligence démoniaque. Hein.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est une question de terminologie, puisque les faits sont avérés. Mais eux disent que c'est des extraterrestres. Finalement, nous, on dit que ce sont des démons. Ils ont été soutenus
par
des démons.
Oui, ce sont des démons. Ces gens-là faisaient partie des sociétés secrètes hautement démoniaques, les Hitler, tous ces gens-là. C'est possible que les démons leur ont communiqué une certaine intelligence. Hein. C'est possible. Mais malheureusement, ils ont perdu la bataille. C'est la preuve qu'il ne faut pas s'associer aux démons parce que c'est des traîtres. Donc, Ils vont te faire croire que tu es le plus grand, mais ils vont t'abandonner, comme dans le film de Coluche, là, vous avancez en nombre, et puis il se retourne, il est tout seul. C'est ça les démons, et il ne faut jamais faire confiance. Il faut faire confiance qu'en Dieu. Il a dit dans Hébreux 13, 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Mais voilà là, Kim Jong-il, il est mort dans un train blindé de crise cardiaque. Le train, il est blindé, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il contrôle tout le pays. Mais il se promène quand même dans un train blindé, mais il est mort. Pour confirmer le psaume 33, ce n'est pas une armée qui protège le roi. Il contrôle tout le pays, le train, il est blindé, mais il est mort de crise cardiaque. Voilà, la trahison des démons, comme d'habitude. Voilà, donc, oui.
Oui, pasteur. Le ciel, on sait bien, le ciel est divisé. Pardon, les cieux. Le ciel est dirigé par Dieu. Bon, les anges dessus sont au ciel. Bon, les choses qu'ils font, c'est Dieu qui permet cela.
Oui.
Bon, et par là aussi, on peut dire aussi, par exemple, on dit qu'une personne pose la question pour dire que oui, c'est vrai, le ciel est dirigé par Dieu. Mais il y a aussi les anges dessus qui sont
indépendants.
Indépendants, voilà.
Non, il y a pas les anges de Dieu ne sont pas indépendants, ils sont directement.
Non, pas les anges de Dieu,
les anges démoniaques. Oui, ils sont dans la rébellion, mais ce qu'ils font sur terre, c'est sous la permission de Dieu. Si Dieu ne permet pas, ils peuvent rien faire.
Mais ils sont dirigés aussi par Dieu.
Non, ils sont pas. Donc, ils sont sous contrôle de Dieu.
Sous contrôle.
Voilà.
D'accord.
Oui.
À un moment où il y avait beaucoup d'activités, d'actualités sur les extraterrestres, il avait été dit que, par certaines personnes, que c'était un camouflage pour. Enfin, une forme de camouflage pour tous les essais qui étaient faits par la NASA. Pour éviter que, en fait, pour détourner le regard des gens par rapport à tout ce qui pouvait se faire en secret et pour attirer le regard des gens sur des choses extraterrestres, alors qu'en réalité, c'était
des essais
qui n'étaient
scientifiques
pas...
qui étaient pratiqués par les Américains.
Voilà. Et puis, pour répondre à Frêle, je ne me souviens plus parce que ça fait longtemps, j'avais regardé une émission sur la construction des V2 pendant la guerre. Et je crois que si les Allemands avaient pu réaliser cette construction, il me semble qu'ils avaient récupéré un savant, je ne sais plus de quel pays, qui avait déjà fait des travaux. Et je crois que, en fait, ce n'était pas leur invention. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Il faudrait regarder l'information. Mais il me semble que ce n'était pas leur propre invention au départ. Et ils ont dû récupérer quelqu'un qui avait déjà travaillé là-dessus.
Voilà.
Par rapport aux extraterrestres. Donc les soucoupes volantes, ça n'existe pas. Parce que j'ai entendu des chrétiens dire oui, qu'il y avait peut-être des soucoupes volantes au paradis parce qu'il y avait des objets. On pouvait supposer que c'était des soucoupes volantes.
Non, mais Dieu peut fabriquer ce qu'il veut au paradis. Donc, mais là, c'est au paradis. Mais ce n'est pas des êtres à part comme ça qui créent eux-mêmes. Non, qu'on appelle des extraterrestres, non. Donc après, si au paradis, on a des voitures sans volant, il n'y a aucun souci. Hein. Ce n'est pas des extraterrestres, c'est les inventions de Dieu. Oui.
Oui, j'ai une question, mais d'abord, pour répondre à Mireille, moi, j'avais vu un reportage qui expliquait que c'est le scientifique qui a bossé sur les V2 que les Américains ont, après la guerre, racheté pour envoyer un homme sur la Lune. C'est peut-être ça dont elle voulait parler. Par rapport à... Là, tu as fait une petite parenthèse sur le passage qui parle des démons qui se sont accouplés avec des femmes. Quand je lis ce passage, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la mythologie grecque qui explique que certains
dieux
se sont accouplés avec des hommes et que des demi-dieux sont nés, dont Hercule, et que ces demi-dieux étaient comme des hommes qui avaient...
Tu peux parler fort, parce que là...
Et que oui, donc ces demi-dieux étaient comme des hommes qui... des surhommes, quoi. Comme Hercule, par exemple.
Oui, oui.
Alors je me dis, mais est-ce que ce parallèle est justifié ou non, quoi? Parce que me semble, il y a des similitudes.
Oui, c'est justifié. Hein. Donc, puisque l'humanité vient d'une même source. Donc c'est normal que dans d'autres civilisations, il y ait des restes de ce qui s'est passé lors de la création. Puisque, d'ailleurs, la thèse d'Alexandre Hislop, c'est quoi? Quand il démontre que le catholicisme, c'est la mère de toutes les abominations. Il démontre que dans le catholicisme, il y a, concentré dans le catholicisme, il y a toutes les pratiques religieuses du monde entier qui sont issues dès la création à Babylone. Donc les périodes proches de la création, déjà à la tour de Babel, il y avait toutes ces pratiques-là qui se sont répandues et que le catholicisme concentre tout ça. Donc il explique par là que finalement, tout vient de Babel. Parce que ce qu'on retrouve au Japon, ce qu'on retrouve chez les Africains, ce qu'on retrouve en Amérique, ce sont des pratiques qui existaient déjà du temps de Babel et que le catholicisme a repris. Donc c'est que les peuples ont gardé les traces de ce qui se faisait depuis longtemps, très longtemps. Donc c'est possible. Oui. Ok, nous en arrivons au dernier point d'aujourd'hui. Est-ce que les voyants disent la vérité? Parce que il y a certains chrétiens, malheureusement, sont impressionnés. Ah, Nostradamus, ils entendent parler d'un voyant qui a prédit ceci, qui a prédit cela. Et on va faire une précision. Que un voyant vous dise ce qui existe déjà. Cela est tout à fait possible parce que ils sont aidés des démons et les démons savent quelle est la couleur de ton lit. Les démons connaissent ton frère. Ils connaissent tes sœurs. Tu peux donc arriver chez un voyant et le voyant pose la question au démon, qui est son frère? Et donc les démons, comme ils sont rapides, donc ils n'ont pas besoin de voiture, ils peuvent aller vite chercher à la mairie des trucs sur toi et revenir dire rapidement aux voyants. Donc ça, c'est possible, puisque les voyants utilisent les esprits. Donc il y en a, quand on dit médium, c'est un canalisateur. C'est-à-dire, lui, c'est un homme, mais il parle avec des esprits, donc lui devient le canal de ces esprits-là. Donc que Satan connaisse ce qui existe déjà, ce n'est pas extraordinaire, parce que c'est comme quelqu'un qui est ici, et puis il s'éclipse un peu aux toilettes, et il appelle un homme qui est au parking là-bas. Bon, il y a un frère qui est habillé de telle manière, et il m'a dit qu'il a 100 euros dans sa poche. Donc maintenant, quand toi tu sors, le monsieur vous rencontre et dit, frère, tu as 100 euros, Dieu veut que tu donnes ça en offrande. Donc, ce n'est pas extraordinaire parce qu'il y a quelqu'un qui avait l'information qui lui a dit. Donc, ça, ce n'est pas extraordinaire. Donc, les voyants peuvent faire ça même parfois, même si parfois, quand même, ils se trompent. Parce que les démons, comme je vous en dis, ils sont toujours traîtres. Ils peuvent parfois te donner la mauvaise information pour te faire souffrir toi-même aussi. Voilà. Ça, c'est possible. Mais l'avenir, seul Dieu connaît l'avenir. Donc, c'est pourquoi, bien-aimés, soyez attentifs à la télé, à la fin, il y a une émission, je ne connais pas quel jour, où on va vous citer les prédictions qui ont échoué. C'est-à-dire, quand les prédictions sont dites, l'homme a tendance, l'homme aime la divination, il aime à connaître l'avenir. Quand les prédictions sont dites, l'homme est impressionné et ça donne une sorte de force à la prédiction. Mais quand elle échoue, les mêmes personnes ne sont pas là pour voir que ça a échoué. Un pasteur américain avait dit que le 11 mai, je crois, de cette année, c'était la fin du monde. Quand on en a parlé avec force, on a rigolé. Mais quand ça a échoué, on n'était pas là le 11 mai à dire ça a échoué. On a oublié qu'on avait dit ça. C'est pour dire que souvent, quand la prédiction sort, on est attentif. Mais quand elle échoue, on est distrait. C'est pourquoi les hommes ne s'en rendent pas compte. Moi, j'étais au Maroc. Un certain Mario de Sabato, un voyant, à l'époque, il est devenu célèbre. Il avait prédit que Hosni Moubarak va mourir d'un attentat. dans les années, dans quelques années, mais vous-même, vous êtes témoin que le monsieur a été sorti du pouvoir par le peuple. Ce n'est pas un attentat. Il avait prédit que Chirac allait faire seulement 5 ans. Vous êtes témoin qu'il a fait combien? 8 ans, hein? Non, pour vérifier ceux qui suivent quand même. Chirac a fait combien? 14 ans. Ah, 12 ans, ok. D'accord. Donc, il n'a pas fait 5 ans. Il a fait 12 ans. Peut-être qu'il était au courant que Lionel Jospin prévoyait de réduire le mandat présidentiel à 5 ans. Il était au courant et il prédit que Chirac va faire 5 ans, croyant qu'il n'allait pas être réélu. Échec, il a été réélu, le voyant humilié. Donc, si vous suivez ces choses-là, vous allez vous rendre compte que toutes les prédictions en général échouent. On dit que Nostradamus avait prédit la chute de tout de New York. C'est faux, bien-aimé. Allez lire. C'est tout. Vous savez, Nostradamus, il pèse combien? 1 milliard de dollars du commerce qui est fait autour de son nom. Donc, quand il y a un événement, on prend les prophéties de Nostradamus, on modifie un peu pour aller avec l'événement. Et 10 jours après, le site Amazon est rempli de commandes de livres de Nostradamus. C'est des techniques commerciales. En réalité, il n'a pas prédit la chute des tours. Donc, il a même parlé de Normand. La prédiction qu'on utilise par rapport à New York, le mot New York à la place, c'est Normand. C'est nous ici en Normandie. Donc, on n'a pas vu Donc, vous voyez bien, mais comment il y a des manipulations. Mais comme l'homme aime la voyance, aime l'avenir, il veut se faire Dieu, il est pris dans ce piège-là tout le temps. Ils disent des faussetés et vérifient. Vous allez voir, l'horoscope, c'est du mensonge total. Il suffit de regarder tout. Vous lisez les horoscopes des 12 mois, vous allez vous rendre compte que vous vous retrouvez dans les 12. Oui.
Je voudrais savoir, les mentalistes, c'est pareil.
Les mentalistes?
Oui.
C'est quoi les mentalistes?
On dit. De...
C'est une sorte de médium.
En fait, il se sert du visage, des traits du visage pour dire en fait.
Qui tu es,
quoi. C'est le mentaliste. Ouais. Non, mentaliste. C'est-à-dire qu'un.
Mentaliste, voilà. Alors, qui. C'est quoi les mentalistes? Voilà, Jonathan va nous répondre.
Bon, d'après ce que j'ai entendu dire là-dessus, c'est quelqu'un qui, en observant avec un sens de l'observation très très élevé, arrive à des déductions qui semblent être de la divination. Mais le mentaliste lui-même reconnaît que ça n'en est pas. Que c'est par exemple la façon de marcher, il va deviner quel sport la personne fait ou des choses comme ça. C'est ce que moi j'ai entendu, je sais pas si c'est voilà.
Oui, mais tout ça. Oui. Oui, mais beaucoup finissent par toucher à la magie, hein. Mais après il y a des choses qu'on peut quelqu'un qui est grand, on dit ah, tu fais le basket et puis ça va tomber aussi en général. Non, après, il y a des trucs qui passent toujours. On dit, tu vas passer une journée difficile, mais il y aura la joie. Voilà. Mais ça va marcher avec tout le monde. À un moment donné, la journée va être difficile pour toi. À un moment donné, il y aura la joie. Ça marche toujours. C'est des techniques comme ça. Moi, vous savez, au Maroc, il y a les centres, les call centers. On a parlé avec des étudiants qui travaillent là-bas. Ils disent, on leur apprend à mentir. Donc, ils sont là. C'est-à-dire, quand quelqu'un clique ici, voyant Germain ici, en réalité, il va parler avec un étudiant au Maroc. Donc, sur Internet, lui, il voit un Français blanc voyant Germain, mais celui qui répond en réalité, c'est un étudiant au Maroc qui est en train de répondre à 8 personnes à la fois. Il est en ligne avec 8 personnes. Tu dis, je vais vendre ma maison. Qu'est-ce que je fais? Il te dit un mot là qui te retarde un peu. Toi aussi, tu réponds. Entre-temps, ça passe la facture. Il passe à quelqu'un d'autre. 8 personnes à la fois. 8 personnes à la fois. Il y a un étudiant qui a failli devenir fou parce que tu mens aux gens. Quelqu'un dit, je vais vendre ma maison. Il dit, tu le vends. Tu vends, d'accord. Mais là, il ruine les vies des gens. Et là, j'ai lu sur Internet, il y a quelqu'un qui dit, qui peut m'aider? J'ai contacté deux voyants d'une société, parce que c'est des sociétés où il y a, par exemple, 10 ou 12 voyants, par exemple. Donc, il a contacté deux voyants de la société, et les deux lui ont donné deux prédictions contradictoires. Il va suivre quoi, maintenant? C'est ça, c'est des escrocs, c'est l'escroquerie. Après, il peut y avoir un degré de magie, mais en général, c'est l'escroquerie. Maintenant, les gens sont épatés parfois quand on leur dit quelque chose qui existe déjà. Maintenant, il y a des cas où les choses qu'on a dites par rapport à l'avenir, c'est arrivé, mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'en ayant foi en ce voyant-là, tu as autorisé un démon à venir dans ta vie et accomplir, par exemple, l'accident qui t'avait été prédit, et accomplir quelque chose qui t'avait été prédit, mais c'est quelque chose accompli par ce démon-là qui va faire que toi, tu vas faire confiance à ce voyant et tu vas devenir dépendant de ce voyant toute ta vie. Oui. Oui, oui.
Qu'est-ce qu'on peut penser? Parce que quand on lit Jules Verne, on voit en fait qu'il avait, il avait vu toutes les inventions dans lesquelles on vit, le sous-marin, le ballon, enfin je ne sais plus exactement. Et qu'est-ce qu'on peut penser? Parce que Jules Verne, il était là bien avant toutes ces inventions, quoi, et il les a décrites comme il faut par rapport dans ses écrits.
Mais pas comme il faut. Par exemple, nous, quand on était en terminale, on nous a donné, il y avait un exercice, c'était voyage...
autour de la Terre.
Non, pas au centre de la Terre.
Au centre de la Terre.
Autour de la Lune. Et dans l'une des illustrations, on voit des hommes assis dans le vaisseau. Et puis, l'exercice, c'était quelle est l'erreur qu'il y a là-bas. Donc, à notre niveau scientifique, il y avait un problème, il y a un problème d'apesanteur. Normalement, quelqu'un ne peut pas être assis. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose, un appareil qui crée l'apesanteur. Voilà. Ce n'était pas le cas dans le roman. Donc, il n'a pas tout imaginé avec exactitude. Bon, il y a deux possibilités. Ça peut être juste de l'imagination humaine. Oui, Dieu nous a créés avec un esprit imaginatif. On peut imaginer des choses. Et d'ailleurs, la plupart des choses qu'on fait, c'est parce qu'on les a imaginées avant. On les a pensées avant. Donc on a cet esprit-là imaginatif et on peut penser que Jules Verne en avait et c'est tout. Hein, parce qu'il n'a pas tout vu avec exactitude, comme tu dis. Il y a des incongruités scientifiques que l'homme normal ne va pas voir comme ça. Mais cependant, nous reconnaissons qu'il a quand même imaginer beaucoup de choses qu'on vit déjà maintenant, qu'on vit aujourd'hui.
Qu'on vit actuellement, quoi.
Moi, je dis que c'est l'imagination. Ce n'est pas une sorte de prémonition parce que le Satan ne connaît pas l'avenir. Satan est sorti de... Il est entré dans le temps en péchant aussi, quoi. Donc, en péchant, il est réduit au présent, quoi. Et c'est nous aussi pareil, nous sommes entrés dans le temps, en péchant, nous sommes entrés dans le temps, nous sommes limités au présent.
Maintenant, on peut aussi penser que comme Dieu est créateur et que notre créativité nous vient de lui, on peut penser aussi que donc, dans Jules Verne, il y avait ce don de création, cette force.
Mais ça peut venir aussi du diable, hein. Ça peut venir du diable, puisque le diable est intelligent. Dans son intelligence, il peut imaginer aussi des choses et donner cela à des savants pour produire. Mais comme l'intelligence absolue vient quand même de Dieu, nous considérons que le diable utilise un don qui était de Dieu dans ses buts à lui, quoi. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la pratique qui se faisait dans la Bible du temps des prophètes, où on disait on va aller voir le voyant en allant voir le prophète?
Oui, donc on considère que Dieu allait leur parler.
Ouais, mais pourquoi ces gens-là en fait avaient le droit d'aller voir le prophète pour justement faire ce que moi j'appellerais de la divination maintenant?
Non, la différence avec aujourd'hui, c'est que les gens n'allaient pas pour des problèmes personnels. Est-ce que je dois acheter un terrain ou pas? Des choses comme ça.
Bah, si, justement. Moi, j'ai vu une fois, enfin, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu ça. Je ne sais plus c'est quoi. C'est Saül, je crois, quand il avait perdu, enfin, son père avait perdu les ânes. Et c'est bien Saül. Enfin, moi, j'ai un problème avec les prénoms. Enfin bref, et son père avait perdu les Indes, il a été les rechercher, et son serviteur a dit, bah, comme tu sais pas où ils sont, peut-être qu'on ira voir le voyant pour qu'il nous dise où ils...
Ouais, c'est ça. Hein.
Donc moi, j'ai lu ça, je me suis dit, bah tiens, parce qu'il a perdu ses Indes, il va aller voir le voyant qui est en fait le prophète de Dieu. C'est vraiment pour...
Oui, mais ce n'est pas la même chose avec ce que nous voyons aujourd'hui, où il y a une sorte de commerce fait autour de ça. Là, c'est une sorte d'éclairage. Donc, Dieu a mis un berger. Et quand on a un souci, on va voir ce berger-là comme, pour lui exposer notre problème. Ça peut être comme tu as dit. Donc, je le prends dans le sens de berger. Il va les aider à trouver. Et Dieu leur avait donné des dons de voyance, enfin de voyance, de dons. De paroles, de connaissances et de visions, ça, il les utilisait dans ce cas-là, mais il n'y a pas une obligation de résultat, quoi. Il y a juste le fait d'aller chercher de l'aide auprès de celui qui est comme une référence spirituelle, une sorte de berger, alors qu'aujourd'hui, c'est une sorte de commerce.
Moi, je comprends ça exactement comme ça, mais je ne parle pas des voyants de... Je parle en fait maintenant de nos jours des prophètes de Dieu. On nous dit, les prophètes, ils prophétisent parce que Dieu parle, mais il ne faut pas les consulter.
Oui, il ne faut pas les consulter.
Alors pourquoi, moi, ma question, c'est pourquoi avant, lorsqu'il y avait justement un prophète comme ça, c'était un berger, les gens avaient le droit d'aller les consulter, c'était une pratique a priori courante dans l'Ancien Testament.
Oui, souviens-toi, Saül a été réprimé parce qu'il a consulté une voyante. Parce que c'est que la manière dont les gens vont consulter les serviteurs de Dieu aujourd'hui, ça ressemble à la même chose que dans le monde. Ce n'est pas une soumission à un homme qui te guide, c'est vraiment une logique d'obtenir une information liée à l'avenir, liée à soi-même, à un intérêt égoïste, quoi. Ce n'est pas un cri « aide-moi », mais c'est vraiment... une chose qu'on veut acheter ou bien obtenir, quoi, par en prêtant à l'autre des pouvoirs. Ça ressemble plus au côté païen qu'au côté berger où on aide la personne. C'est pourquoi aujourd'hui, dès le Nouveau Testament, on ne voit pas ça, hein, qu'on aille consulter un apôtre ou quelque chose dans ce sens-là. Par contre, c'est autorisé d'aller voir les bergers pour manifester des soucis, exprimer des soucis. Mais ce qu'on refuse, c'est le côté ressemblance au monde où on va vraiment pour une idée de soutirer une information par rapport à l'avenir ou par rapport à soi-même d'une manière égoïste. C'est ça qui n'est pas bon.
Ce qu'on peut dire aussi, parce que ce qui a changé aussi, c'est que maintenant on a le Saint-Esprit et que...
Il nous conduit dans toute la vérité.
Et qu'on n'a plus besoin d'aller voir quelqu'un d'autre.
Non, ce n'est pas qu'on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est le Saint-Esprit qui doit nous demander d'aller voir quelqu'un d'autre.
Voilà,
c'est ça la différence.
Oui, j'allais parler par rapport à l'avenir. La Bible dit que si Satan connaissait l'avenir, il n'allait pas crucifier Jésus. Donc il l'a crucifié parce que pour lui, il avait perdu, quoi. Jésus avait perdu. Donc, or, c'était une victoire. Et par rapport aux inventions, je me rappelle plus si c'était un Africain ou un Européen, un sataniste qui avait témoigné, un ex. Il avait quitté le satanisme. Il avait témoigné, il parlait de, dans ce monde, dans leur monde, il y avait des stores qu'on utilise aujourd'hui. Il avait parlé des portables ou des appareils vraiment.
Des iPhones, tout ça.
Il avait parlé de ces choses-là, quoi. Et ils en parlaient, c'était pas encore, ça n'existait pas encore. Mais ils disaient que dans leur monde, on utilisait.
Moi, je parle que c'est l'intelligence. L'intelligence peut les conduire à théoriser ces choses-là à l'avance par rapport à l'homme. Donc, les esprits sont plus intelligents que l'homme. Mais ce n'est pas prédire l'avenir, c'est faire à l'avance. C'est un petit exemple, c'est comme l'avance que peut avoir les États-Unis par rapport à un autre pays, comme la Corée, comme la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une intelligence qui a travaillé à l'avance. Donc les démons, n'ayant pas les mêmes contraintes que nous, physiques, d'âge, de mémoire, peuvent utiliser l'intelligence pour créer les choses à l'avance et communiquer ensuite les formules aux humains. Voilà, mais l'intelligence, c'est quand même l'intelligence absolue que Dieu a créée dès le départ. Ça ne vient pas d'eux. Ils sont tentés d'utiliser ça pour eux-mêmes.
Oui, parce que je veux revenir sur l'acte de Jésus quand il a envoyé les disciples aller chercher une âne pour le rapporter et tout. Mais Jésus leur a précisé, c'est comme si je ne sais pas si je peux placer ça comme nous voyons ou comment. Il savait déjà l'année dans telle place, sur telle personne et tout. Maintenant, de là, on peut classer ça, on peut appeler ça comment ? Est-ce que qu'il était inspiré ou bien une acte de voyance ?
Il était inspiré.
Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens où ils se plongent, des chrétiens un peu modérés, ils se plongent à ça en vouloir mettre ça dans la logique de la voyance.
Non, mais c'est pas. Parce que la voyance aujourd'hui. Quand tu vas voir un voyant, il ne te demande pas est-ce que tu mènes une vie correcte, est-ce que tu crois, est-ce que... Non, il règle ton problème en te donnant une sorte de prédiction, soit liée à toi-même ou liée aux événements, soit en te disant les choses qui existent. Mais ça fait partie des dons du Saint-Esprit que le Seigneur donne aux chrétiens de pouvoir aussi voir l'avenir. C'est ça, ça fait partie de nous. C'est l'esprit prophétique que de voir l'avenir. Donc le chrétien peut connaître l'avenir parce que Dieu lui a montré. Et là, Jésus-Christ a reçu l'avenir, c'est pourquoi il a décrit cet avenir-là. Il le connaissait cet avenir, c'est pourquoi il le décrit à l'avance. Et le chrétien peut avoir ce don-là de voir certaines choses, mais il ne peut voir que si Dieu permet qu'il voie. Ce n'est pas comme un métier où il verra tout le temps. Non. Il verra quand Dieu voudra qu'il voie. C'est pourquoi on ne peut pas systématiquement dire que les gens aillent voir un tel pour savoir ce qui va se passer. Non, parce que si Dieu ne veut pas montrer, le monsieur ne va pas voir. Et on voit même un exemple dans le livre des rois. Il est écrit qu'Élisée n'avait pas vu la chose parce que Dieu ne le lui avait pas montré. Pourtant, Élisée, justement, c'est l'un de ceux qu'on considérait vraiment qui voyait beaucoup. Mais... il est écrit qu'il n'avait pas vu parce que Dieu ne lui avait pas montré. Donc c'est ça la différence. Le prophète du Seigneur dépend du Seigneur, dépend du Saint-Esprit. Alors que le voyant du monde, lui, il considère qu'il aura toujours les résultats parce que ses démons sont toujours avec lui. Il fait confiance en ses démons. Alors que nous dépendons du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit ne veut pas montrer, il ne va pas montrer. Donc même si nous, on souhaite voir. Voilà. En résumé, la plupart des choses, tout ce qui est voyant qu'on voit à gauche, à droite, c'est soit de la magie, mais qui ne peut pas prédire l'avenir malgré tout, mais qui peut voir quand même des choses qui existent, soit c'est des calculs statistiques. Il y a des choses qui marchent statistiquement toujours. Quand on dit à quelqu'un, ça peut toujours... quand on dit à quelqu'un, tu es souvent fatigué ces derniers jours. En général, nous sommes tout le temps fatigués. Donc, quand dire à quelqu'un, tu es souvent fatigué ces derniers jours, quand tu dis à quelqu'un, tu n'arrives plus à prier ces derniers jours, souvent, nous tous les chrétiens, nous considérons que la façon dont on prie, ce n'est pas suffisant. Donc, si tu dis à un chrétien, tu n'arrives plus à prier ces derniers jours, tout le monde va dire oui. Parce que tout chrétien veut prier beaucoup et il estime tout le temps que ce qu'il fait n'est pas suffisant. Et dire à un chrétien, bon, tu n'arrives plus à prier ces derniers jours, ça marche toujours. Et moi, j'ai entendu ça beaucoup de faux prophètes. Frère, je sens que tu n'arrives plus à... Ça marche toujours avec tous les chrétiens parce que tous les chrétiens désirent beaucoup prier, désirent. Et dire ça, ça marche. Donc, il y a beaucoup de techniques comme ça qui marchent. Mais ce sont des techniques, hein. Ce sont des analyses humaines. Et puis, c'est ce qu'on appelle les charlatans, quoi. Voilà. Mais nous ne devons pas nous laisser impressionner par tout ça. Soyons concentrés sur la Bible. C'est très important. Soyons concentrés sur la Bible. Et vous savez encore une autre chose qui marche quand on prédit une bonne chose à quelqu'un. Quoi. Ça aussi, ça marche toujours. Les gens se sentent toujours bien. Je sens une chaleur dans ta vie. Là, tout le monde... Ça aussi, ça marche toujours. Dieu va commencer à te réveiller la nuit pour prier. Là, ça marche toujours. Donc, la personne est contente. Ah, Dieu va commencer à me réveiller. Donc, ça marche toujours. Ce sont des techniques. Ce sont des techniques qu'il ne faut pas... où tu dis à une sœur, Dieu a réservé un homme pour toi. Ben là, là, ça marche toujours. Ça marche toujours, oui.
La Bible dit que c'est Dieu qui a créé le zodiaque, tous les signes en fait dans les étoiles. Et
non, qui a créé les étoiles, qui forment ces signes-là, voilà. Oui.
Mais bon, il y a des signes, c'est lui qui a créé les signes, etc. Et je me demandais moi si, en fin de compte, s'il l'a fait, c'est pour une raison. Un peu comme, est-ce que ça a une influence sur nous de la manière, en fait, que par exemple la Lune a une influence sur la mer qui fait les marées, etc.
Non, scientifiquement, ça n'a aucune influence due à la distance. Parce que l'influence que la Lune a par rapport à la marée, c'est lié aux forces de gravitation. Or, vu la distance des étoiles, elles n'ont pas d'influence sur nous côté gravitationnel.
Ah non, je ne parle pas de gravitation, ça peut être autre chose. Enfin, bon, bref.
Non, il y a scientifiquement, les étoiles, la seule influence qu'elles peuvent avoir, c'est qu'on les voit, c'est tout. Elles n'ont pas d'influence électrique comme veulent le prétendre les gens du 21 décembre 2012. Non, ça n'a scientifiquement aucune influence. Ce qui est plus grave par rapport au signe du zodiaque, c'est qu'aujourd'hui, si on te dit que tu es lion, ce n'est pas la réalité, parce que les signes tels que ça a été fixé, entre-temps, la Terre, à cause de son inclinaison par rapport à son axe, à cause de l'oscillation, la Terre a bougé. Ce qui fait que le ciel tel que ça a été décidé, qu'un tel est lion et tel est bélier, il faut reculer d'un signe. Donc l'astrologie telle qu'elle est aujourd'hui, elle est totalement déplacée par rapport à l'astrologie d'il y a 2500 ans. Donc il y a déjà erreur rien que par rapport à ça. Et deuxièmement, d'une manière scientifique, physique, il n'y a pas d'influence. Donc la montagne, le Mont Blanc a plus d'influence sur nous que les étoiles.
Mais alors, quelle est la pensée de Dieu en créant ces signes-là alors ? Parce que c'est quand même écrit dans la Bible. Et bon, les hommes en font ce qu'ils peuvent parce que voilà, ils cherchent des choses.
Il montre sa grandeur. Moi, je dirais, il montre sa grandeur, c'est tout.
Est-ce qu'il a fait ça pour signer, pour fixer des temps, pour dire qu'il y a des périodes dans la vie, des choses comme ça, ou
des périodes dans la vie?
Ouais,
des non, pas du tout, parce que dès qu'on est avec le Seigneur, tout est beau. Donc, il n'y a pas de période. Donc, chaque jour peut être pareil. C'est nous qui choisissons. On met la foi en Dieu et chaque jour est pareil.
Mais les circonstances changent.
Mais oui, malgré le changement des circonstances, nous, on peut toujours être heureux de la même manière. Donc, ce qui fait que... Puisque le Saint-Esprit est constant. Donc, le Saint-Esprit en nous peut produire la même joie chaque jour. C'est notre choix à nous qui détermine cela. Donc, ça n'a rien à voir avec les circonstances. Si nous, on met foi, on exprime la même joie partout. Que ce soit en prison, que ce soit dans la richesse, la même joie. C'est ça, quoi. Ce qui fait que, bon, Dieu ne peut pas déterminer les choses une fois pour toutes. C'est vraiment, lui, il a déterminé que le Saint-Esprit nous donne la vie en abondance chaque jour. Oui.
Tout à l'heure, j'ai entendu Nancy dire que, comme Satan ne savait pas que Jésus allait mourir, c'est pourquoi...
Non, au contraire. Il dit qu'il ne savait pas que... Il savait pas que la mort était une victoire.
Non, Satan ne savait...
S'il savait que ça serait une victoire, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur.
Ah, d'accord. Mais je voulais savoir, comprendre, donc... Quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu as la pensée du diable.
Il n'a pas dit
tu as la pensée de...
Il a dit arrière...
arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas des... Ce sont des pensées humaines. C'est ce qu'il a dit. Il a dit bon, arrière de moi,
vérifier,
Satan.
On va vérifier. Matthieu 16, je crois. Ou dans Luc ou dans Matthieu. Mm-hmm. Matthieu, combien? 16-23. Il dit, arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ok.
Non, c'était par rapport à ce que, si Jésus l'avait dit, est-ce que c'était pour, parce que Pierre, les pensées qui venaient de Pierre voulaient l'empêcher d'aller à la croix.
Oui.
Alors, je me pose la question, comment, là dans 1 Corinthiens, on dit que c'était les puissances de ce monde qui n'avaient pas la sagesse de Dieu pour comprendre que Jésus allait crucifier, en allant à la croix, il allait avoir la victoire pour nous. Donc, je voulais savoir, est-ce que, c'est là où je me pose la question, est-ce que Satan, en insinuant cette pensée à Pierre, il ne voulait pas empêcher Jésus d'aller à la croix. Est-ce qu'il avait cette, il n'avait pas cette pensée-là de, il ne savait pas.
Non, moi je pense que voilà, il n'a pas compris exactement. Mm-hmm. Ce qui l'a animé là, c'est de contredire le Seigneur qui venait d'annoncer qu'il allait souffrir et mourir à la croix. Et donc, Pierre a réagi charnellement, mais la chair, qui est-ce qui influence la chair? C'est le diable. C'est pourquoi il y a les deux messages. Arrière de moi, Satan, c'est la pensée des hommes. Parce que Pierre a réagi comme un homme, d'une manière charnelle, et cela sous l'influence du diable. Mais c'est vraiment les deux liés. Pierre qui refuse de voir son maître mourir, et Satan qui s'emploie toujours à contredire Jésus à travers les humains. Voilà. Okay. Ben, dernière question.
Oui, j'ai une question, mais avant, c'est par rapport à la question de Franck qui demande pourquoi Dieu aurait... Quelle était l'intention de Dieu pour créer les étoiles? Il y a la Genèse qui le dit clairement. Hein. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc ça me paraît assez clair. Bon, par contre, ma question, c'est par rapport aux mages. Les mages venus d'Orient qui observaient les étoiles. Je me suis souvent demandé, mais est-ce que c'était des voyants, des astrologues? Parce que à cette époque-là, s'ils venaient d'Orient, c'était à peu près Babylone. Et voilà, ils observaient les étoiles. Donc, est-ce que c'était des scientifiques ou des astrologues? Parce qu'à cette époque, il y avait un peu de... Donc, les mages qui sont venus adorer Jésus. Donc...
Tout est possible. Ça pouvait être des astronomes comme des astronomes, astrologues en même temps. Voilà, ça pouvait être les deux. Soit astronomes, tout simplement, des scientifiques qui observent les étoiles d'une manière scientifique, soit astronomes et astrologues en même temps, qui pensaient qu'il y avait une relation entre... Donc c'est ça l'astrologie et l'astronomie. L'astronomie, nous restons dans le domaine scientifique. On observe, on cherche des relations physiques entre les choses. Alors que l'astrologie, c'est prétendre qu'il y a une relation entre les étoiles et les humains. C'est ça la différence. Alors que l'astronomie, on reste dans le domaine de l'observation et dans le domaine physique. Et donc, il pouvait être soit astronome, soit les deux. Astronome et astrologue, c'est possible. Oui?
Oui, j'avais une question. Est-ce que la Lune peut avoir une influence sur nous? Parce que je dis ça parce que souvent, tout le monde dit la pleine Lune, c'est à cause de la pleine Lune que les enfants dorment mal, qu'il y a eu l'accouchement avant, qu'il y a eu ceci, cela. Enfin, toujours, tout est dû à la pleine lune, quoi.
Ah bon? Moi, je n'ai pas vu les enfants dormir mal à la pleine lune. À vous? Pardon? Ah, donc vous avez observé que les enfants dorment mal à la pleine lune, hein? C'est, mais toi aussi, tu es parent, non? Oui.
Mais dans les services hospitaliers, par exemple, en psychiatrie, on voit les patients qui sont plus agités.
Plus agités? Après, du moment que la Lune a des influences sur la marée, ça peut avoir des influences gravitationnelles sur l'homme aussi. C'est possible. Des influences liées à la force de gravitation. La force de gravitation, c'est quoi? C'est que deux masses dans l'univers s'attirent à l'aide... Il y a une formule qui donne la valeur de cette force-là. Donc, c'est cette force-là qui fait aussi que la Lune influence les marées. Donc, Maintenant, c'est possible que cette force-là agisse sur les humains d'une certaine manière. Voilà. Oui.
Oui, mais la Lune, c'est pas parce qu'on la voit mieux ou qu'on la voit moins bien qu'elle agit moins. Je veux dire, l'attraction terrestre, elle est la Lune et l'attraction terrestre.
Peut-être quand c'est la pleine Lune, permanent. Elle est plus proche, je sais pas.
Oui, mais alors au Japon, pendant ce temps-là, ils n'ont pas la pleine Lune.
Et non, pourtant... mais par rapport à là où il y a la pleine Lune. Peut-être ouais. C'est quand il y a la pleine Lune, elle est plus proche. Peut-être c'est ça. Donc ça reste à vérifier. Hein. C'est pas ça. Parce que si quand il y a la pleine Lune, la Lune n'est pas plus proche, je ne vois pas pourquoi ça va influencer physiquement. Parce que cette force-là augmente quand la distance diminue. Voilà. Donc si elle est plus proche et qu'il y a influence, je comprends. Mais si elle n'est pas plus proche, je ne crois pas qu'il y ait une influence.
Oui, mais
le reste, ça doit être psychologique hein, ou bien spirituel. Voilà. Ça doit être les forces des ténèbres qui travaillent beaucoup quand il y a la pleine lune. Voilà. Ça doit être ça, peut-être. Bon, dernière des questions, puisque...
Pasteur, par rapport à, je sais pas, la pleine lune, peut-être qu'il semble... que les personnes pensent qu'il fait plus jour. Donc, il y a peut-être plus d'activité chez les enfants ou chez personnes en psychiatrie. Parce que quand c'est la pleine lune, je sais pas, c'est plus éclairé. Donc, on est moins peut-être dans le noir. Les gens, ils ont la sensation qu'il fait plus jour.
Je sais pas. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais vérifier moi-même pendant la pleine lune si je vais mal dormir. Quoi. Voilà. C'est... OK, on va prier alors. Seigneur, merci pour cette étude biblique. Nous prions que tu nous aides à tirer les conclusions pour des futurs travaux avec toi et avec les autres humains. Nous prions que tu nous aides vraiment à serrer la Bible dans nos cœurs afin de nous laisser déstabiliser par rien d'autre, qu'elle soit notre base pour toutes choses et que lorsque nous ne comprenons pas, nous puissions chercher en la lisant et en priant et non pas en fermant les yeux en disant « bon, je ne cherche pas à comprendre ». Parce que nous sommes amenés à convertir d'autres personnes et à répondre à certaines questions. Aide-nous à chercher en lisant et en priant pour que nous puissions avoir des explications à nous donner, à donner aux autres. Et si, malgré tout, nous n'avons pas d'explication, nous puissions nous référer à Deutéronome 29:29 qui nous dit que ce qui est caché est pour toi, ce qui est révélé est pour nous. Que nous puissions nous contenter de ce qui est révélé pour marcher avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen.